Les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette librairie francophone de l'été du dimanche, complément de la librairie francophone estivale, diffusée elle le samedi à 9h. Reportages, livres de poche pour l'été, souvenirs de l'émission, grand entretien et séquences créoles sont au programme de cette édition. Aujourd'hui nous irons en Belgique au musée Hergé. Vous entendrez Françoise Hardy pour un livre de poche à lire pendant vos vacances. Jean Rochefort sera dans notre séquence souvenirs et nous irons en Chine avec Alexandre Trudeau, frère du Premier ministre canadien. Chaque semaine, en soutien aux librairies indépendantes, nous serons aussi en ligne avec un libraire français pour son coup de cœur estival et une anecdote de libraire. Aujourd'hui, nous irons à Bordeaux, mais avant, on part à Louvain-la-Neuve.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Voilà, on est au musée Hergé à Louvain-la-Neuve, à 30 km de Bruxelles. Avec ce bâtiment très moderne, ces espaces incroyables sur toute la vie d'Hergé et puis évidemment sur les personnages. Bonjour Dominique Maric.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accueillir ici. Vous avez publié Les Trésors de Tintin aux éditions Casterman. On va passer à un groupe d'enfants. Voilà, alors Hergé, évidemment, qui compile des documents parce que c'est un auteur très précis qui veut absolument refléter la réalité.
Oui, tout à fait. Donc Hergé, comment son premier boulot, c'était quand même de travailler dans un journal, en l'occurrence le XXe siècle, et très vite, il a évidemment accès à toute une série de documents de presse qui sont fort importants. En fait, ici, c'est surtout son papa qui va l'aider à découper des documents, sa première épouse, Germaine, qui va également se mettre au boulot. Donc c'est vraiment quelque chose de très familial et qui est loin, évidemment, de certaines organisations maintenant liées à la bande dessinée.
En 1929, Tintin naît, l'année des grands reporters qui sillonnent le monde avec le transsibérien, bien sûr, les bateaux. On partait comme ça, un sac ou une valise à la main, c'est ça qui fait rêver. C'est comme ça que Tintin perce auprès du public.
Voilà, ben il faut dire qu'Hergé, effectivement, est un petit Bruxellois qui, pendant une grande partie de sa vie, ne va pas tellement voyager. Alors, sa façon à lui, très vite, de voyager, c'est par procuration, en créant ce héros Tintin, donc en 1929. Et il a, comme tout le monde, évidemment, accès aux salles de cinéma, aux actualités, et il découvre les exploits des grands reporters de l'époque, notamment Albert Londres. Ça le fait rêver, ça le fascine, et il en fait ce qu'on connaît, c'est-à-dire Tintin.
Et ce qu'il se passe, c'est qu'au début, en fait, Tintin évoque un peu l'actualité du monde. C'est un peu un tour du monde que propose Hergé.
Oui, effectivement, on l'envoie partout. Il est commandité, je dirais, de manière directe par le journal Le XXe siècle. Il est d'ailleurs crédité comme reporter du petit 20e, et donc il emporte même un appareil photo avec lui. On verra par la suite qu'il sera plutôt un héros d'action qu'un véritable reporter. Toujours est-il que tout ça se fait effectivement à partir de Bruxelles, et il sillonne le monde, d'abord la Russie, et puis le Congo, et puis l'Amérique, et puis on partira, je dirais, à la conquête de toute la planète.
Oui. Alors là, juste à côté de nous, il y a une planche incroyable, c'est la couverture du trésor de Rackham le Rouge ici au musée Hergé, parmi les enfants, car il y a des visites d'enfants, vous les entendez derrière nous. Et cette planche, voilà, dit-on, vaudrait 3 millions d'euros à peu près.
Bah écoutez, on peut toujours spéculer, c'est évident. C'est que je parlais des trésors de Tintin, ben en voilà un. Cette couverture est absolument magnifique, avec les moyens graphiques que l'on connaît chez Hergé. Mais il est vrai que depuis quelques années, la cote d'Hergé ne cesse de grimper dans les grandes salles de vente à Paris ou ailleurs. Je crois qu'on peut s'en réjouir parce que ça entraîne un phénomène de masse qui fait que d'autres dessinateurs sont aussi entraînés dans ce mouvement.
Tintin est un journaliste. Tintin est donc un miroir, si vous voulez, qui reflète les différentes phases de l'actualité. Il est de notre époque et donc il reflète évidemment toujours l'actualité, même inconsciemment pour moi.
On passe sur une passerelle, c'est très étonnant ce musée Hergé, ici en Belgique. On a l'impression d'être dans un mini Guggenheim, pour ceux qui connaissent le Guggenheim à Bilbao. C'est très inspiré, non, Dominique Maric?
Je dirais qu'effectivement, mes patrons, Fanny et Nick Rodwell, ont beaucoup sillonné le monde à la recherche d'inspiration pour créer un musée qui était, je dirais, à la hauteur de leurs ambitions. Donc c'est l'architecte français bien connu, Christian de Pozenpark, qui a réalisé ce bâtiment. Il y a une ambition, effectivement, mais qui est à la mesure, je dirais, des trésors qu'on y trouve. C'est une architecture que moi je trouve très lumineuse, c'est le cas de le dire, il y a énormément de surfaces vitrées, on est dans quelque chose qui reste très humain, d'autant plus que la ville est là à notre portée.
Voilà, on a une grande vitre hein, avec la ville, voilà. Il y a une ouverture sur la ville, sur Louvain-la-Neuve, où Hergé a évidemment séjourné, c'est pour ça que le musée est ici.
Voilà, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous, comme auraient dit certains amis d'Hergé. En fait, Hergé ignorait tout évidemment de ce qui allait se passer, mais il habitait un petit village ici charmant, il avait une maison de campagne à Serroumousty, pour être très clair, et donc il se fait que le musée se fait à quelques jets de pierre de chez lui, et on le voit derrière nous, il y a un petit bois, il y a énormément de gens qui peuvent circuler, je dirais librement, et tout ça au pied de ce musée. Je crois que franchement c'est un cadeau qu'il aurait vraiment apprécié.
Alors on va s'intéresser au Lotus Bleu à présent, Dominique Maric, dans une autre salle.
Tu m'as sauvé la vie. Comment pourrais-je te remercier ?
Ne t'en fais pas, ce qui est important c'est que tu sois en vie. Que t'est-il arrivé ?
L'orphelinat où je vivais a été détruit par l'inondation.
Et maintenant, que vas-tu faire ?
Je ne sais pas.
Je m'appelle Tintin.
Et moi, c'est Chang.
Alors c'est d'accord. En route pour Oku.
Dans votre livre, vous évoquez le Lotus Bleu, Dominique Maric, et puis il y a une anecdote comme ça, une phrase d'Hergé qui est assez drôle, qui nous interpelle quand même, parce qu'il dit, quand le Lotus Bleu est imprimé, quand il a le premier exemplaire, il dit c'est trop beau pour les gosses.
Voilà, ça prouve à quel point Hergé lui-même, et ça je crois que c'était pas de la fausse candeur ou de la naïveté, mais réellement, je crois qu'il s'est pas rendu compte à quel point il était talentueux, et à quel point tout
voilà
a été...
Voilà si quand même. Hein.
Oui, tout à fait, mais je veux dire...
C'est presque prétentieux d'ailleurs.
D'une certaine manière, mais en même temps, je crois que son étonnement était réel, parce que encore une fois, la BD à l'époque, n'oublions pas, était destinée aux enfants. Et quand il voit ça, effectivement, il a l'impression de se trouver face à un chef-d'œuvre de graphisme, de couleurs et de mise en page. Et donc, effectivement, il dit waouh, c'est peut-être un peu trop pour un enfant. Mais c'était peut-être un peu maladroit de dire ça. Mais je crois qu'il ressentait une réelle émotion et qu'il prend peut-être enfin conscience de ses véritables talents, qui ne vont cesser de se développer par la suite d'ailleurs.
On descend dans une autre salle, sur un autre étage évidemment. On sillonne dans le musée Hergé ici à Louvain-la-Neuve avec Dominique Maric et puis on tourne autour de ce fameux lustre où il y a tous les personnages d'Hergé. Dominique Maric, pour rester sur le Lotus Bleu, on sait qu'à ce moment-là, Hergé prend parti contre les appétits expansionnistes du Japon. Et l'ambassade du Japon va réagir d'ailleurs, l'ambassadeur lui-même.
Oui, voilà. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je crois que l'œuvre d'Hergé est souvent assez politisée. Alors, on a pu lui reprocher parfois une naïveté face à ses premiers engagements, entre guillemets, soviet-congo. Mais par la suite, très vite, déjà dans Tintin en Amérique, il prend ouvertement parti pour les Indiens. Il y a une page extraordinaire qui montre l'exploitation des Indiens par les Blancs. Et puis, dans le Lotus Bleu, effectivement, là, il prend ouvertement parti pour les Chinois contre l'invasion japonaise, ce qui lui vaudra effectivement quelques ennuis.
On va terminer dans une dernière salle, dernière découverte ici au musée Hergé.
Je dessinais mal, très très mal. Alors pour recommencer une histoire dans laquelle il y aurait eu Tintin qui aurait dû commencer, pendant des mois je devais le dessiner le même. J'ai pris la solution la plus simple qui était le cercle. Donc j'étais très paresseux, voilà la seule raison. On fait Milou, d'accord?
Oui.
Alors on voit dessiner Tintin et Milou sur cette vidéo. Ça a l'air tout bête, vous dites, oui.
Ben voilà, c'est un document de la radio-télévision suisse romande qui date des années 60. Et on voit effectivement en direct Hergé qui dessine donc Tintin et Milou et qui signe cordialement Hergé. Alors ça a l'air tout simple, effectivement, mais je défie tous nos auditeurs de dessiner Tintin et Milou. Ils verront que c'est pas facile.
On va terminer, hop là, j'ai failli tomber, on va terminer dans une petite salle, dans une chambre ronde avec une grande marche.
La marche du capitaine Haddock.
C'est la marche du capitaine Haddock. Alors ça résonne assez drôle. Qu'est-ce que c'est que ce chant-là ?
Alors voilà, on a voulu aussi illustrer musicalement toute une série de goûts d'Hergé qui, surtout à partir des années 50 et 60, commence à aimer le blues, le rock. Et donc voilà, ça montre aussi son éclectisme. Alors cette salle est c'est un très beau clin d'œil puisqu'on y voit ici toute une série de couvertures d'albums dans toutes les langues possibles et imaginables, langues et dialectes et patois, ça va du tahitien en passant par le wallon de la région, en passant par du breton.
Le monde entier représenté aussi.
Le monde entier représenté et quand on voit les couvertures, on se rend compte effectivement qu'elles sont... je dirais, inoxydable, indestructible et inoubliable. C'est vraiment l'art du dessin qui est démontré ici.
Merci beaucoup, Dominique Maric.
C'est moi qui vous
remercie. Merci de nous avoir accueillis ici à Louvain-la-Neuve, au musée Hergé, où il faut absolument venir. C'est magnifique. Merci.
Avec grand plaisir.
Oh, et puis tonnerre de Brest, il n'y a qu'à suivre cette piste, nous allons bien savoir.
Et voici notre séquence livre de poche avec un livre à lire pendant les vacances. Nous avons sélectionné un récit signé Françoise Hardy. Françoise Hardy est donc dans la librairie francophone cette semaine. Alors Françoise, vous avez publié L'amour fou. Vous racontez le récit d'une relation amoureuse entre un homme qui ne sait pas ce qu'il veut vraiment et une femme qui subit comme ça ses émotions personnelles, à savoir un amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est l'amour fou pour vous, Françoise Hardy? Comment se manifeste-t-il?
C'est ce qu'éprouvent la plupart des gens quand ils tombent amoureux. Parce qu'il me semble que l'amour, au sens amoureux du terme, est fou de toute façon, puisque d'un seul coup, tout dépend d'un autre, hein, qui a pouvoir de vie et de mort sur vous. Parce qu'on peut tuer avec des mots, on peut tuer avec une absence, un silence, une disparition. Donc c'est de la folie, véritablement. Puis on a en général des espoirs par rapport à cet autre, par rapport à la relation que l'on espère avoir avec, des espoirs qu'on peut qualifier aussi tout à fait insensés, de durée, d'amour éternel, de réciprocité absolue.
Mais ça, c'est lié à la souffrance, absolument?
Ah ben oui, forcément, parce que dès que...
Non, mais c'est lié à la souffrance. Ça part mal quand on part comme ça.
Ça débouche. Oui, mais ça, tout le monde part comme ça, en général, surtout dans la jeunesse. Et donc, bien évidemment, quand une demande est déraisonnable et folle à ce point, elle ne peut que déboucher sur des déceptions et des insatisfactions terribles.
Et on peut aimer trop au point de ne pas être aimé?
Oh, moi, je crois qu'il y a vraiment une loi arithmétique ou mathématique, je ne sais pas comment dire, qui fait que plus l'autre a l'impression d'être en terrain conquis, et plus
il prend ses aises.
Plus il se désintéresse, oui, bien sûr.
Mais on tombe dans le piège.
Donc, je n'ai jamais compris, mais ça, c'est plutôt une attitude masculine de se sentir en terrain conquis quand la femme est, voilà, en état de disponibilité totale par rapport à lui. Il n'imagine pas que ça puisse s'arrêter.
Il y a des femmes comme ça aussi, hein, Françoise, qui se sentent très sûres d'elles et qui attendent.
Oui, non, mais je vous crois.
Quand on lit ce roman, Françoise, qui frôle parfois la litanie, on se dit que vous avez gardé comme ça toutes ces réflexions, toutes ces pensées pour vous pendant toutes ces années. Et qu'aujourd'hui, vous vous libérez.
Non, oui et non, parce que je trouve qu'il y avait une cohérence à publier en même temps le disque et le livre, parce que le livre, c'est en quelque sorte l'histoire à répétition que j'aurais vécue dans ma vie sentimentale et qui aura été la source d'inspiration de tous mes textes.
C'est le socle, alors,
hormis peut-être les tout premiers, ça n'a pas inspiré évidemment tous les garçons et les filles, puisque là, je ne savais pas encore ce que c'était. J'aspirais à ce Graal sans savoir que c'était empoisonné.
Oui. Bon. Mais bien ensuite, partir quand même, alors, tout ça,
ensuite,
tout est là.
Oui, message personnel, si on fait attention à la partie parlée, c'est exactement ça, mais plein d'autres chansons. Donc, la plupart.
Mais comment elle en arrive là, cette femme, dans votre livre, Françoise Hardy? Comment elle peut en arriver au point... Attendez, laissez-moi terminer, parce que c'est quand même très particulier. C'est-à-dire qu'elle est amoureuse transie, comme ça, d'un homme a priori banal, qui est singulier, certes, qui a un charme, mais qui la rejette en permanence. Il l'humilie à chaque fois, par exemple, à un moment. Elle lui demande pourquoi elle ne peut pas simplement s'allonger à côté de lui. Et il répond: parce que cela déclencherait en moi une force de répulsion.
Ah oui, je me rappelle de ce passage.
De ce passage ou de ce moment de vie?
Écoutez, c'est très simple. On a, chaque personne a en elle-même une problématique affective particulière. Enfin, des tas de gens ont la même, hein, mais et qui va vous attirer inconsciemment vers certaines personnes dont la problématique va être complémentaire de la vôtre et va vous permettre d'alimenter la vôtre. Mais votre problématique, il y a aussi un autre aspect, c'est que cette problématique va induire chez vous des attitudes qui vont provoquer ce que vous redoutez le plus chez l'autre. Donc, à partir du moment où on est un peu maso sur les bords, fatalement, on peut déclencher, on tend le bâton pour se faire battre en permanence sans s'en rendre compte. Moi, c'est ce que j'ai fait, je m'en suis rendu compte vraiment beaucoup trop tard.
Et le plus dur dans cette histoire, Françoise, et dans toute histoire d'amour d'ailleurs, c'est le doute qui s'immisce. L'épreuve du doute, comme vous le nommez précisément. Quand on en est là, qu'est-ce qui se passe, Françoise? La vie s'anime ou bien l'envie s'éteint?
Ah, oh, mais l'envie, elle s'éteint avec le temps, à force de souffrance,
à force de doute, oui.
Ou quand il ne se passe pas assez de choses pour alimenter les sentiments et le désir. Mais les doutes, c'est inhérent. C'est inhérent à la condition humaine et à toute relation. Comment est-ce qu'on peut être sûr d'abord de soi-même et ensuite de qui que ce soit.
Bon, en même temps, lui, il lui dit tout de suite de ne pas s'attacher à lui. Donc
oui, mais le doute, il est extrêmement ambivalent. Et en fait, la souffrance, que je décris dans le livre, je crois qu'on remarque surtout la souffrance de la narratrice. Mais en face, il y a quelqu'un qui souffre autrement, mais qui souffre aussi énormément.
Vous avez eu le sentiment de plus aimer généralement dans votre vie, plus aimer que l'autre, que votre partenaire?
J'ai eu l'impression de subir parce que je croyais que l'abnégation était la plus grande preuve d'amour jusqu'à ce qu'au bout de je ne sais combien de temps, je découvre qu'il n'y avait rien de plus suspect que l'abnégation, que derrière l'abnégation, il y avait des aspirations inavouées, inavouables, de devenir indispensable à l'autre et que le résultat était qu'on l'infantilisait en réalité.
Croyez-vous toujours, Françoise Hardy, qu'il n'y a pas d'amour heureux alors ?
Non, mais je crois que la condition humaine, par essence, est malheureuse, et l'amour comme le reste.
Ouais,
mais il n'empêche que l'amour,
on va passer une bonne soirée, une bonne journée.
L'amour permet des moments de bonheur. Il y en a forcément dans une relation d'une rare intensité,
ouais.
Et c'est à ça qu'on est accro.
Le livre de Françoise Hardy, L'amour fou, est paru en poche chez J'ai lu. À suivre, le souvenir de la semaine avec Jean Rochefort qui nous parlait de sa passion pour les chevaux. Nous étions allés chez lui à Paris. Son accueil chaleureux nous avait marqué. Ce sera après un titre acoustique joué en public à Bruxelles dans la librairie francophone par le groupe Les Innocents. Voici une version inédite de leur tube Color sur France Inter.
Sans épreuve ni pont, indolore les murs et coule dans le fleuve la facture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge, à jamais répand du phare sur les hommes. Car le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour, il me révèle. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami. J'envoie de toutes les couleurs pour des cieux. Mes frères s'engagent sur des routes à l'envers, mais là-haut on décide. Fais le ménage, fais le vide et sur la peau. Sur les hommes, comme le temps colore la foule, colore mes veines. Chaque jour, il me révèle. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami.
C'était Les Innocents dans notre studio avec Color. On passe à notre séquence souvenir avec le grand Jean Rochefort.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Bonjour Jean Rochefort.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous à Paris, aux portes du quartier Saint-Germain, à proximité de la Seine. Vous êtes un grand passionné de chevaux. D'ailleurs, je vois des photographies autour de nous avec une bibliothèque derrière. Il y a forcément des livres de chevaux à l'intérieur. Vous avez publié avec Édouard Vignot le Louvre à cheval, une promenade à travers les œuvres du Louvre qui montre les chevaux. Il y en a beaucoup. On n'imagine pas d'ailleurs à quel point le cheval est présent dans l'art, dans tous les registres, toutes les époques.
Oui, parce que le cheval est d'abord historique. En plus, il est très inspirant pour les artistes parce que c'est un animal d'une extrême beauté sensuelle pour nous. Il y a une sorte d'étrange cousinage entre les chevaux et nous. Et les artistes se sont beaucoup servis des chevaux comme modèle, oui, c'est vrai.
Alors grâce à vos commentaires, Jean, on apprend beaucoup de choses sur le monde équestre. Vous relevez certains détails, certaines erreurs aussi. Par exemple, avec le tableau de Delacroix et ce tigre qui attaque un cheval par derrière, le cheval qui a ce tigre comme ça accroché à la croupe, il se retourne et ça, selon vous, c'est impossible.
C'est impossible, oui. Tout cheval attaqué par derrière... il est biologiquement construit pour fuir en avant le cheval, toujours. Mais l'œuvre est tellement belle qu'il faut s'incliner devant ce défaut qui est secondaire. Par contre, Géricault, lui, avait compris une chose absolument admirable, c'est à savoir que la fuite en avant, toujours, si un cheval est dans l'eau, il ira immédiatement vers l'horizon et mourra noyé. Il ne fera pas demi-tour pour rejoindre la terre, et dans le déluge de Géricault, on voit un homme qui interdit à un cheval de partir vers le large.
En lui tordant les oreilles.
Et alors il reste tétanisé sous la douleur et ne part pas vers le large.
Et c'est pour ça que quand on entraîne les chevaux dans la mer, on garde une vigilance particulière, on reste à côté d'eux, sinon ils continuent tout droit, effectivement, ils n'arrivent jamais à revenir, ils se noient.
Et moi, j'ai connu douloureusement cette chose-là, puisque la première fois que j'ai sorti ma jument de base, je suis allé nager avec elle dans la mer, et je n'avais pris aucune embouchure, et elle est partie, je la tenais par l'encolure. J'ai commencé vraiment à m'angoisser et je m'en suis sorti uniquement en enfonçant mes mains dans ses naseaux. Et j'ai réussi à lui faire demi-tour et je l'ai blessé même, je m'en souviendrai.
Vous évoquez souvent d'ailleurs une sorte de rapport amoureux avec les chevaux. Ce sont presque des relations passionnelles parce qu'il faut savoir, Jean Rochefort aussi, que le cheval vous choisit. Il est très difficile de l'amadouer en quelque sorte. Le contact se fait ou ne se fait pas. Vous êtes d'accord avec ça?
Absolument. C'est-à-dire que il se fait pour obtenir les grandes complicités. Bien sûr, on sait le dominer, on peut le dominer, mais on n'a jamais cette osmose mystérieuse qui peut se produire entre un cheval et un homme, car quand l'osmose est là, il n'y a plus besoin d'un dominant. En compétition, par exemple, il y a des chevaux qui savent ce qu'ils ont à faire, et maintenant, avec les progrès que nous faisons dans l'étude des autres espèces, on sait, on a la certitude que les chevaux, entre autres, y trouvent un certain plaisir.
Dans ce livre, Le Louvre à cheval, il y a de nombreuses peintures qui décrivent des promenades, comme celle du marquis de Moncada, réalisée par Van Dyck. Et la promenade en solitaire à cheval, pour vous, Jean, c'est, je cite, « le meilleur moment d'une vie, des souvenirs avant la mort ». Quels souvenirs en gardez-vous, là, aujourd'hui?
J'en ai la gorge qui serre, rien qu'à l'évocation de ces promenades solitaires avec un cheval qu'on aime et dont on sait qu'il a avec vous quelques complicités. Et ça a été des moments de bonheur absolument prodigieux. J'ai eu la chance d'avoir des chevaux que je mettais au monde moi-même, donc il y avait des complicités extrêmes. Et me promener, j'ai appris le misanthrope, le rôle d'Alceste, sur une jument qui s'appelait Blandis, et j'ai appris Don Quichotte sur le dos de sa fille. C'est quand même pas mal, c'est une belle lignée.
C'est une belle lignée, oui. Mais c'est vrai que vous avez d'ailleurs eu cette passion pour le cheval, Jean Rochefort, lors du tournage du film Cartouche, de Philippe de Broca.
Voilà.
Il y avait Belmondo qui est très sportif, qui était très à l'aise, et vous étiez quand même un peu tétanisé.
Moi, j'étais tétanisé d'amour, et aussi parce que j'étais moins...
Ah, tétanisé d'amour.
Ah oui, je n'endormais plus la je n'endormais plus la nuit, d'avoir le désir de monter à cheval le lendemain pour le film. Mais en général, je me cassais la gueule tout le temps. Belmondo n'est jamais tombé de quoi que ce soit, jamais de sa vie. Et j'en ai marre, il m'agace. Et alors?
Le message est passé, oui.
Il est énervant. Hein.
Il est énervant.
Oui.
Belmondo est un acteur énervant.
Très énervant. Et alors? Quel brut. Et alors? Là, j'ai eu un coup d'amour. Alors, ça engendre, si vous avez des souvenirs, une timidité prodigieuse, l'amour, hein, quand tout à coup, on se met à désirer une femme violemment, et en se disant connement, ça sera celle-ci et personne d'autre, ça dure 6 mois, mais ça dure, mais on est toujours en retrait, alors qu'elles attendent de nous l'autorité, la masculinité.
Et le rapport avec le cheval, Jean ?
Il est identique, pratiquement.
Ah, d'accord.
Il y a une sensualité extraordinaire dans nos rapports. J'avais été interviewé une fois pour un court-métrage sur moi, ma vie. Et alors, je montrais comment on pouvait amadouer mon étalon, Nashville, je redonne toujours des noms de films. Et j'expliquais... qu'il fallait le gratter autour de l'anus. Et cet étalon, très viril, mettait toujours sa queue de côté pour que je lui gratte l'anus, ou en tout cas le bord de l'anus. Il était adorable, il ne bougeait plus. Malheureusement, ce jour-là, le film en est un témoignage, un de ses fils et de cet étalon, qu'il ne pouvait pas blairer, ça aussi chez l'homme, ça peut arriver, voit ce fils qui sort de son box, tenu par quelqu'un, il en attrape une rage épouvantable, se retourne violemment, m'attrape par mon imperméable, qui était costaud heureusement, et me secoue, je suis en l'air, c'est filmé, et me lâche, et je tombe sur le sol. Et ma réaction de cabot, c'est de me retourner vers le caméraman, et je dis, vous l'avez eu, ça? Vous l'avez filmé? J'étais à moitié brisé. Cassé en quatre, et c'est authentique. Donc on a des relations, il est bien connu que les soigneuses, par exemple, ont avec les étalons, des relations très très étranges, et moi-même, les grands chevaux de ma vie ont été des juments.
Alors vous avez été éleveur, hein, Jean, évidemment, pendant de nombreuses années. En 2004, vous recevez le prix du mérite agricole, et ça, pour vous, c'est mieux qu'un César, ou presque. Et un jour, oui, c'est vrai, vous confirmez.
Ah ben oui.
Et un jour, lors d'une vente de chevaux à Saint-Lô, un vieux Normand s'approche de vous et vous dit « Je t'ai vu à la télé hier soir, je ne savais pas que tu faisais aussi du cinéma ».
Ah, vous savez ça. Ça a été pour moi un jour de gloire extraordinaire. Il fallait l'imaginer avec son nez tout rouge. 8 cheveux graisseux enroulés sous sa casquette. Vraiment, un gars de la Normandie, quoi, qui me voyait aux ventes des talons à Saint-Lô tous les ans. Et il a dit cette phrase en me regardant avec l'accent, « Ça plaît bon à Dieu, je t'ai vu hier à la télé, je savais pas que tu faisais du cinéma. » Il croyait que j'étais éleveur professionnel. Ça a été pour moi une consécration extraordinaire.
Il y a beaucoup de fantaisie hein, dans vos commentaires, Jean Rochefort, quand vous voyez par exemple sur un dessin de Léonard de Vinci un homme nu qui monte à cru, vous dites ne pas l'envier, on imagine pourquoi. Et il y a aussi une céramique grecque qui attire votre attention avec le dessin des attributs du cheval.
Ah voilà, c'est un cheval encélé, assez beau, mais qui a un sexe d'homo sapiens. Et je me suis inquiété dans le texte. Je me suis inquiété que par étourderie, l'artiste n'ait pas mis des sexes d'équidés à l'homo sapiens, parce que un sexe de cheval sur un homo sapiens, l'homme est encombré pour toute sa vie.
Ah oui, ça c'est clair.
Ah oui, ça c'est très embêtant.
Surtout dans les situations excitantes.
Oh ben ça, c'est ça toutes ces femmes que je voyais courir en hurlant.
Derrière vous Sur les tournages, c'est
hélas,
ça.
Hélas, non.
Vous faites toujours le cheval, Jean Rochefort, vous imitez toujours les animaux?
J'imite assez mal le cheval, bizarrement.
Plutôt le chimpanzé.
J'imite très bien le chimpanzé. Enfin une interview intelligente. Enfin quelque chose de culturel.
C'était visuel quand même. Hein. Oui, merci beaucoup Jean Rochefort.
Je vous en prie.
Merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous, d'avoir choisi la librairie francophone pour parler de ce livre, Le Louvre à cheval, publié par les éditions du Louvre en coédition avec Place des Victoires. Merci Jean, merci beaucoup vraiment.
Oh, je pense que ça va être diffusé partout.
Partout dans le monde, vous imaginez?
Dans le monde, mais quelle horreur.
Votre réputation est fichue.
Oh là 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 là, je pars en Tasmanie.
Et chaque semaine de l'été, dans cette librairie francophone diffusée le dimanche uniquement sur France Inter, on part à la rencontre des libraires en soutien aux librairies indépendantes françaises. Aujourd'hui, cap sur Bordeaux, dans la librairie La Machine à Lire. Bonjour Hélène Deligneris.
Bonjour.
Où êtes-vous à Bordeaux, Hélène?
Nous sommes situés place du Parlement, dans le vieux Bordeaux, qui est une très très belle place dans les quartiers plus anciens de Bordeaux. Et La Machine à Lire, je me permets de le dire, est une très belle librairie avec des voûtes en pierre, donc qui attire le regard et l'œil du touriste. Et je crois que les gens s'y sentent bien. Donc
parfait.
Voilà, le vieux Bordeaux.
On a envie d'entrer dans votre librairie, en quelque sorte, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Bon.
Alors, quel livre conseillez-vous en ce moment pour l'été dans cette librairie?
Alors le livre que j'ai envie de transmettre, c'est un livre qui s'appelle « L'homme qui penche » de Thierry Metz, qui est édité aux éditions Une avec une préface de Cédric Le Penven. C'est un livre qui pour moi est un compagnon de route, un ami de chaque instant. Et Thierry Metz, c'était un manœuvre, un cantonnier qui est né à Paris mais qui vivait à Bordeaux et il a vécu un drame dans sa vie. À partir de là, il a commencé à descendre un petit peu et à se tourner malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vers l'alcool et la dépression. Enfin bon, Il a demandé deux fois d'être interné en hôpital psychiatrique à Cadillac. Et lors de ses séjours, il a écrit deux carnets qui ont été réunis, alors qui ont paru une première fois chez Opale, une deuxième fois, et là qui viennent d'être réédités il y a deux ans.
Oui.
Et en fait, ce sont 90, on peut dire, des poèmes en prose. C'est un poète, cet homme est un poète. C'était, il n'y a pas de tristesse, il ne désespoir. Il s'observe, il observe les autres. Et à partir de là, il écrit le moins de mots possible qui doivent être le plus épuré, le plus travaillé.
D'accord.
Et je trouve que ça fait profondément sens et que je pense que chacun et chacune d'entre nous peut trouver dans ce livre quelque chose qui va nous parler au plus profond de notre être. Et je trouve que c'est formidable quand on est libraire de pouvoir permettre à quelqu'un d'accéder au livre de Thierry Metz. L'homme qui penche,
oui.
Édition 1. Je précise aussi qu'il y a une préface de Cédric Le Penven et l'auteur c'est Thierry Metz, M-E-T-Z, comme la ville, sauf que
d'accord.
C'était à Bordeaux.
Merci Hélène. On vous a demandé aussi de réfléchir à une histoire personnelle de libraire, une anecdote drôle ou émouvante. Vous avez le choix. Qu'avez-vous choisi?
Alors j'ai choisi l'émotion, décidément je suis plutôt là-dedans en ce moment. J'ai choisi l'émotion d'un jeune homme qui est arrivé dans la librairie il y a environ un mois et demi. À La Machine à Lire, on fait beaucoup de conseils et ce jeune homme est arrivé et il est venu vers moi et il m'a dit avec une simplicité qui m'a émue, « Madame, je voudrais un livre sur la rupture. Je suis en train de la vivre, je m'en sors pas, je suis malheureux, je voudrais un livre sur la rupture. » Donc j'ai réfléchi et je me suis dit sociologie, philosophie, psychanalyse, j'ai pensé évidemment à plusieurs titres.
Ouais.
J'ai commencé à lui en conseiller certains, mais je sentais que c'est pas ça dont il avait besoin. Et je lui ai simplement dit, écoutez, moi ce que je vous conseille, puisque vous vivez quelque chose de difficile, c'est plutôt de prendre un roman qui va vous passionner, qui va vous permettre de retrouver le soleil, la vie et l'énergie de continuer malgré ça. Et j'ai lu dans ses yeux une telle gratitude que je me suis dit que là aussi, ça faisait sens.
Et il est revenu pour vous dire ou pas ?
Pas encore.
Pas encore. Bon, vous attendez.
Je l'attends.
S'il nous écoute, il faut absolument qu'il retourne dans la librairie, dire comment ça s'est passé pour lui. Merci beaucoup, Hélène Deligneris. Merci.
Je vous en prie.
Je rappelle que vous êtes libraire à Bordeaux dans la librairie La Machine à Lire. À bientôt. Bel été à vous dans la belle ville de Bordeaux. À bientôt, Hélène. Dans un instant, un récit de voyage en Chine avec Alexandre Trudeau, frère de Justin Trudeau. Ce sera après le groupe Urban Village. Bonnes vacances sur France Inter.
A road to a place where every soul is one. Share wisdom. Hang it to your zinthela. Hibu swaguba pampi. Him who sakisis. Him who sakisis. Sibambi sen sakisis. Around the fire, the men echo a chanting rhythm. Boom, 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 boom.
C'était Urban Village avec Saki Sizoué dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Bonjour Alexandre Trudeau.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans cette émission. Vous êtes auteur, journaliste et documentariste canadien, fils de Pierre Elliott Trudeau, ancien Premier ministre du Canada, personnalité politique majeure de l'histoire du Canada, frère de Justin Trudeau, l'actuel Premier ministre. Vous avez publié un récit sur la Chine, en Chine, paru chez Paulsen en Europe et chez Boréal au Canada. C'est votre père d'ailleurs qui vous a donné envie de découvrir la Chine. Vous le racontez dès le début, ça.
C'est vrai, mon père était avant tout un voyageur. Et un de ses premiers grands voyages, disons que c'est un voyage qui l'a marqué beaucoup, c'est en 49, en Chine, à la toute fin de la Révolution. Et la Chine était devenue pour lui le pays où on s'en va pour quitter notre zone de confort, pour quitter l'Occident, pour comprendre que le monde est multiple et plus large, qu'il y a d'autres civilisations dedans. Et c'est ce qui nous a appris aussi au fil des ans, avec d'autres voyages en Chine avec lui.
Et alors qu'il a quitté ses fonctions de Premier ministre depuis 6 ans, votre père vous emmène en Chine avec votre frère, Justin, un an après les événements de la place Tiananmen. C'est en 1990, et même à titre personnel, politiquement, c'est délicat, c'est osé de la part de Pierre Elliott Trudeau.
Oui, c'était mon insistance qu'on était censé y aller en 89, l'année de la place. Je voulais quand même y aller. Mon père m'a fait comprendre ça se fait pas, visiter la Chine à ce moment-là. Mais j'ai insisté pour que l'année après, qu'on y aille. Mon père était hésitant parce que le Canada avait rompu les liens avec la Chine à ce moment-là. Mais il savait, j'avais 15 ans ou 16 ans même. Mon frère avait 18, donc le temps de voyager avec ses enfants tirait à sa fin. Ouais. Donc, il avait accepté d'y aller. Donc, c'était ma première découverte consciente de la Chine.
Vous êtes très excité avec votre frère. Vous racontez une anecdote où vous dévalez une montagne sacrée comme deux adolescents qui s'amusent. Sauf que c'est un peu mal vu.
Oui, finalement, le voyage, on aurait voulu faire le voyage, un vrai voyage sac à dos. Mais pour les Chinois, il n'y a pas de retraite de la politique. Et donc, mon père, fallait le guider partout. Donc, c'était très protocolaire. La montagne sacrée, c'était pas sacré pour nous, c'était une occasion de dépenser un peu d'énergie emmagasinée. Mais on s'est blessé en le faisant et mon père s'est frustré contre nous.
Et vous dit une phrase terrible.
Ben, il nous a dit, écoute, les gars, les Chinois nous considèrent, les Occidentaux, comme des barbares. Donnez-leur pas raison, montrez du respect.
C'est ça. Alors, les grandes questions, vous en parlez parce que vous constatez en Chine, à Pékin tout particulièrement, les problèmes de pollution qui sont très inquiétants. On va écouter d'ailleurs le son du monde de la semaine. Le principe, une musique habillée d'une voix. Cette voix va lire un extrait de votre livre, Alexandre Trudeau, et c'est le jeune auteur haïtien Néhémy Pierre Dahomé que nous avons sollicité, qui a accepté. Il est juste face à vous dans ce studio. Il va lire un extrait d'En Chine à propos justement de ce problème climatique sur la musique de l'artiste chinois Zhao Muang.
Quand le vent souffle, la capitale est aussitôt recouverte de poussière. Comme Los Angeles et Mexico, la capitale chinoise, située dans une vallée, est piégée par les montagnes qui l'encerclent. Par temps calme, une poche d'air emplie de gaz d'échappement et autres fumées toxiques nappe la ville. Yeux irrités et injectés de sang sont le lot quotidien des habitants et les troubles respiratoires courants chez les enfants. Une sévère agression qui n'est pas près de s'améliorer vu les centaines, voire les milliers de nouvelles voitures qui sont sur les routes chaque jour. Mais la capitale a un souci encore plus important que la qualité de l'air. L'eau. Les provinces qui entourent Pékin sont aux prises depuis des années avec une sécheresse sans précédent. Il y a tout simplement moins d'eau dans la région et la ville a toujours plus soif.
Extrait d'En Chine, livre d'Alexandre Trudeau par Néhémy Pierre Dahomé sur la musique de l'artiste de la nouvelle scène folk chinoise Zhao Muang. C'est un vrai problème écologique, effectivement, Alexandre. Avec les États-Unis de Donald Trump qui font marche arrière sur les accords climatiques de Paris, accord fortement soutenu d'ailleurs par votre frère, le Premier ministre Justin Trudeau, il y a de quoi s'inquiéter vraiment?
Oui, effectivement. C'est les Américains, les Nord-Américains, les Canadiens, je dois le dire aussi, parce qu'on a tellement d'espace, on a du mal à sentir que la planète est rendue très petite, très fragile. Les Chinois, par contre, ils vivent dans un manque d'espace depuis des millénaires. Donc, ils sont habitués. Ils ont des problèmes majeurs, mais en même temps, je m'attends que ça soit... comme on voit avec la Chine comprend que l'environnement qui les entoure, même s'ils n'ont pas... régler leurs problèmes de pollution encore. Je pense que la Chine va prendre les devants pour l'attaque des problèmes environnementaux.
C'est possible ça d'après vous, oui?
Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. C'est essentiel pour eux. Les conditions, les Chinois acceptent, sont habitués d'accepter des conditions de vie difficiles, mais il y a des limites. Et maintenant que la Chine, souvent c'était l'environnement, elle n'était pas prioritaire. Mais ils sont rendus à un point, ils sont assez riches pour s'y consacrer.
Alors, c'est vrai qu'on connaît tous, évidemment, les grandes ambitions économiques de la Chine. Vous le racontez dans votre livre, et ce, depuis toujours. Et ce sont les multinationales étrangères qui ont noué des accords avec l'État chinois. Tout est là. Même si l'État garde le contrôle, il a ouvert toutes les frontières économiques. C'est le capitalisme à outrance, le libéralisme total aussi, avec une présence quasi inexistante des syndicats, et une grande difficulté pour les travailleurs de se défendre.
Oui. Oui, il n'y a pas d'organisation syndicale là-bas et c'est très difficile.
Vous rencontrez d'ailleurs des travailleurs qui ont eu du mal, qui ont été amputés, ont eu du mal même à porter l'affaire en justice.
Ça s'est amélioré, mais encore beaucoup, c'est-à-dire les conditions. C'est des gens qui travaillent, on s'attend, la Chine s'attend que ses citoyens travaillent très fort, 6 jours semaine, 6 par 7, de longues heures, dans des, les conditions et les salaires se sont améliorés, mais c'est encore comme ça que, qu'ils parviennent à nous fabriquer des objets que, à bas prix que nous consommons.
Il y a des rencontres étonnantes quand même, parce que il y a ce personnage auquel je pense, la Gann, qui travaille pour une grande entreprise d'exportation et qui vous explique qu'une bonne guerre serait favorable au développement scientifique et technique de la Chine.
Oui, c'est-à-dire, c'est une drôle d'impression, mais il faut penser que l'Internet, on doit l'Internet à l'armée américaine. Donc, la modernité, d'une certaine manière, s'est fiée aux deux grandes guerres pour mettre de l'avant toutes sortes de technologies. Donc, c'est vrai que ayant vu plusieurs guerres, les guerres ont tendance à faire, peut-être à long terme, ils offrent quelques bienfaits, mais ils font des dégâts.
c'est pas mesurable quand même.
Mais c'est drôle à dire, la Chine, elle est profondément paisible. Et sécuritaire pour un si grand pays. Il n'y a pas de crime, là. Il n'y a pas de... Ou très peu, du moins.
Non, mais ça vous choque quand même, ce qu'il vous dit sur la guerre, non?
Il y a plein de choses de surprenant en Chine, oui, absolument.
Non, vous avez l'air...
parce que c'est un ingénieur.
Vous avez l'air de trouver ça presque normal, vous m'inquiétez,
non,
Alexandre.
Non, je dis qu'en Chine, le voyage en Chine, on rencontre toutes sortes de choses surprenantes.
Ouais,
c'est une seule fois que j'ai rencontré cette opinion-là. Ouais.
La vie en Chine, Alexandre Trudeau, c'est aussi la cuisine, effectivement. Beaucoup d'anecdotes sur la cuisine dans votre livre. Vous avez mangé du serpent, vous l'avez choisi d'ailleurs.
Oui, ça fait partie du voyage, de voyager en mangeant, c'est sûr. Et en Chine, il faut comprendre que la religion chinoise, il y a deux éléments. C'est la famille et c'est la nourriture.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire tout ça. Et c'est un pays, c'est un peuple qui n'a pas vraiment de loisirs. Ou qui en a pas eu auparavant. Là, ça commence avec le golf et des petites choses. Mais c'est des gens qui travaillent tellement. Leur loisir, c'est quoi? C'est de se retrouver autour d'une table et de manger.
Alors, le serpent, dites-nous.
Et le serpent, les Chinois mangent, comme c'est un geste philosophique de manger, ils mangent pour des raisons particulières, pour faire un équilibre. Et le serpent, ce que je savais pas à l'origine, c'est quasiment un peu trop évident. C'est pour la vigueur sexuelle qu'on mange le serpent.
Ah oui.
Et donc, nous, on s'attend que les chairs qu'on mange soient tendres et bien apprêtées. Eux, bien évidemment, quand ils mangent pour cette raison, le serpent, il leur sert parce que c'est rigide, c'est dur, c'est coriace.
Oui.
Ça m'a pas plu.
Vous visitez aussi un salon de massage. Le massage intégral, dirons-nous, est très courant apparemment, Alexandre.
Oui, c'est-à-dire c'est un peu encore la compression, la densité du peuple, le fait que le corps humain est quelque chose de très anodin pour les Chinois. Donc, leur sexualité, à certains égards, il est très, très libéré. C'est-à-dire, à d'autres égards, ils n'en parlent jamais. C'est omniprésent, il y a du sexe partout, si on le voit. Mais
si on le cherche, on le trouve.
Personne n'en parle jamais.
Ouais. Vous êtes allé dans le salon?
Qui est le contraire d'une certaine... Non, finalement...
Si, vous êtes allé un peu.
Ben, je suis allé à la porte. Il était question que je rentre. J'étais avec mes deux guides, deux femmes.
Qui étaient, en plus.
Qui voulaient y aller.
Qui voulaient y aller, pour encore une fois. Et je me suis trouvé trop pudique pour y aller.
C'est vrai, vraiment.
Ben, franchement,
c'est pas une posture pour le livre, ça.
C'est pas un endroit. C'est-à-dire, je me suis dit, on passe pas une prostituée en entrevue dans son lieu de travail.
Non, c'est clair.
Ça n'a pas de sens. Mais c'était. Je m'étais rendu jusqu'à la porte parce que mes deux guides féminines étaient tellement désinvoltes qu'elle trouvait ça normal. Mais ça m'a fait, justement, j'ai réalisé à ce point comment nous, les Occidentaux, nous sommes, à bien des égards, bien plus pudiques que les Chinois. Mmh. Les Chinois, bof, le corps humain, bof.
Voilà, toute cette analyse dans ce livre. Merci beaucoup, Alexandre Trudeau, d'avoir choisi La Librairie francophone en Chine et paru aux éditions Paul Sen et aux éditions Boréal. Un récit passionnant, un carnet de voyage très instructif et très bien réalisé, parfaitement édité d'ailleurs. On va féliciter la maison d'édition. Merci à vous, Alexandre.
Quelle joie l'emporte, ce diable sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Tôt ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores. Regardez-le sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille, et les œuvres qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son enfant au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes de confettis en désordre, qui enroulent et l'entraînent dans une journée nouvelle avec eux. Hier l'entendait dans tous les ports, clamait dans l'amertume sa soif de solitude. Qui l'aurait cru à faire danser des inconnus, les yeux loin dans le vague et le cœur qui s'emballe. Regardez-le sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille, et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval, celui de son enfance, au parapluie qui danse. Et son cœur laisse des orbes de confetti en désordre, qui l'enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle.
C'était Voyou avec Carnaval dans la librairie francophone sur France Inter. Et on termine cette émission avec le bonus créole, un bonus antillais aujourd'hui.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Le bonus créole de Bartabas aujourd'hui avec un grand écrivain, Bartabas.
Bah oui, c'est pas très original, mais je suis retombé dessus par hasard l'autre jour. J'étais en train de ranger mon bordel dans ma caravane et je suis retombé sur les cahiers d'un retour du pays natal d'Aimé Césaire et c'est absolument évidemment génial, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire.
La poésie, grand poète,
moi j'aime beaucoup
Césaire.
La poésie parce que moi je me lève très tôt le matin.
Ouais.
La poésie, c'est pas mal. Vous lisez un petit quatrain et hop, vous vous endormez, quoi, le soir. Lire un petit quatrain de François Tcheng, par exemple, et hop, s'endormir, c'est génial.
Et les Antilles, vous êtes déjà allé là-bas avec Zingaro, avec vos
non,
spectacles?
Non, jamais. Non.
Pourquoi?
Parce que Zingaro, c'est quand même 19 surmorques de matériel à transporter, ouais. 40 chevaux, 40 personnes, ça coûte très cher, et puis c'est quand même très très lourd, quoi. Donc quand on va quelque part, on reste dans les grands voyages comme ça, on reste au moins 90 jours.
Merci. Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. C'est le choix de Bartabas. C'est le bonus créole de Bartabas dans la librairie francophone. C'est la fin de cette émission de l'été. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation et la production, Cyril Pascal, avec la contribution de Jean-Philippe Verret. À la technique, Fabrice Desmaz et Thierry Dupin à la prog musicale. On se retrouve samedi à 9h pour la librairie francophone estivale avec Yves Ouvrigny, Jean Tellet, Marc Serron, Eric Orsena et Jean-François Samelong à La Réunion pour une histoire incroyable dans un cimetière au bord du lagon. Dimanche prochain, dans cette librairie francophone de l'été, diffusée une uniquement sur Inter, vous entendrez l'incroyable rencontre entre Dany Laferrière et le groupe Arcade Fire. Nous serons aussi avec Anne Goscinny, Jane Birkin et Michel Galabru pour notre séquence souvenir. Bonne semaine à vous, à très bientôt, salut.